temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour la parole, un temps pour le silence. Un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Un temps pour le temps. Il est temps.
La création.
Atelier de création radiophonique. Jusqu'à quand ?
Limbo.
Paroles de réfugiés palestiniens au Liban. Par Frank Smith et Gilles Mardi-Rossio.
Mars 2003, retour à Beyrouth, dans les camps palestiniens. Retour à Beyrouth, une amnésie pleine et large et fragile et tendue. Un trou pour y enfouir l'expérience du vécu et fuir les responsabilités de la guerre et vivre dans un nouveau mensonge fondé sur une falsification du présent. Ceci n'est point Beyrouth et pourtant c'est elle, avec comme autre mensonge la condition des Palestiniens. Et pourtant c'est elle, Beyrouth, et ce sont les camps, avec des réfugiés dedans. Dans Beyrouth, qui a cassé ses mémoires, les unes après les autres. Lorsqu'on va aujourd'hui dans le centre, où s'est levée la vieille ville vibrante d'un faisceau de valeurs contradictoires, on ne rencontre qu'un vide béant, avalant en même temps le cri et l'écho. Et dans les camps, Beyrouth, où est Beyrouth ? Un lieu qui se définit par ce qui ne contient pas. Le passé ne suffit plus. Et le futur n'est pas convaincant. Abou Nabil, Sabra et Shatila, mars 2003.
Je me souviens de ces jours-là. Lorsque j'étais enfant, on parlait d'un certain complot américano-britannique contre le peuple palestinien, monté pour fonder un État sioniste, chasser notre peuple, faire de ses habitants des esclaves au profit des Israéliens. Au début, on ne croyait pas tout cela. Mais en 1936, quand le complot s'est déclaré, on était convaincus qu'il fallait faire quelque chose pour notre pays. C'était notre devoir. Un homme, s'il n'aime pas son propre pays, il ne pourra jamais aimer un autre pays.
Retour à Beyrouth et reprendre son souffle. Quand toutes les voix se taisent, niées par la violence, étouffées par la crainte, ou simplement rendues vaines par la banalité du monde, il y a à faire entendre la parole des sans-paroles, dans le désert, paroles brûlées et brûlantes dans sa vérité intérieure. Je ne voudrais que ça. Ce qu'ils disent est pris à la chair et au sang, arraché au réel et donné en substance aux autres vivants.
Je me languis du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Jour après jour, l'enfance grandit en moi. Rends-moi la constellation de l'enfance, que je puisse emprunter avec les petits oiseaux la voie du retour au nid de ton attente.
Cette Palestine rêvée, nébuleuse, désirée, et on se souvient des mots que les combattants arabes avaient brodés sur l'étendard de l'exil jordanien, ces mots au nom de guerre mais d'amour. Ô Palestine, jamais je ne t'oublierai.
إلى تفاصيل البلاد وكانت سنة انفصال البحر عن مدن الرماد وكنت وحدي ثم وحدي أحمد كان اغتراب البحر بين رصاصتين مخيما ينمو وينجب زعترا ومقاتلي وساعدا يشتد في النسيان ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي.
أنا شرفي شرفي وبعد اللي بعتز فيه أكثر شيء بإني خلقت بفلسطين وإنسان فلسطيني.
Ma dignité, ma fierté, c'est que je suis né en Palestine et que je suis palestinien.
وأرصفة بلا مستقبلين وياسمين وأرصفة بلا مستقبلين وياسمين.
L'exil est la plus grande douleur, car il anéantit le lien charnel avec la terre mère. Il est la prison qui enferme loin du corps des personnes aimées. Seul le souffle et la parole peuvent redonner vie à ce sentiment, non dans la mémoire, mais dans la plénitude du réel. L'exil, c'est une qualité de folie, car celui qui a perdu le corps de la femme qu'il aime tombe dans le vertige de la violence.
Ô ma douleur orgueilleuse, ma patrie n'est pas une valise, et je ne suis pas un voyageur. Je suis fou, et cette terre est ma passion.
Les Palestiniens du Liban sont une part de la communauté réfugiée palestinienne parmi ceux qui vivent la condition la plus tragique des réfugiés. Premièrement parce que c'est les plus anciens. Vous savez qu'en 1948, lorsque Israël a détruit les 420 villages palestiniens essayer d'évacuer le maximum de citoyens palestiniens pour faire en sorte que ça devienne un pays à majorité juive, les réfugiés ont été vers les frontières les plus proches. Et comme la région que Israël voulait vider était la Galilée, le Triangle, là où justement il y avait trop de Palestiniens par rapport aux Juifs israéliens, les réfugiés sont partis donc vers le Liban, qui était la frontière la plus proche, souvent d'ailleurs à pied. Et donc vous retrouvez dans la communauté des réfugiés du Liban la plupart des habitants des villages de cette région du nord de la Palestine. La majorité a été donc prise en charge par l'UNRWA comme pour tous les réfugiés. Et clandestinement, ils se sont réorganisés eux-mêmes par village d'origine. C'est-à-dire qu'au début, les autorités libanaises les ont divisés en chrétiens et musulmans. Et puis, elles ont placé les gens par ordre d'arrivée. Et la nuit, les réfugiés se faufilaient à l'extérieur de leur camp, qui était encore à l'époque en toile, pour essayer de retrouver leurs frères venant du même village, leurs voisins, leurs cousins. Je crois qu'ils ont senti que pour survivre, il fallait qu'ils reconstituent le village en exil. J'ai senti beaucoup la force qu'ils tiraient de leurs origines. D'ailleurs, les gens disent « moi je suis de Safouri, moi je suis de Shafa'amer, moi je suis... » Ils s'appellent par leur village d'origine.
حاليا الشعب الفلسطيني ما سكت الشعب الفلسطيني بعد ما خرج من فلسطين
jamais le peuple palestinien s'est
وخاصة مخيمات لبنان كثير من
au sein de la diaspora surtout dans les camps du Liban beaucoup de gens se rassemblaient et parlaient de la Palestine. Ils fondaient des associations. Je me rappelle très bien que je faisais partie d'une association qu'on a appelée le Club de Palestine. Quand on se rencontrait, je racontais des histoires de la Palestine, du temps de ma jeunesse. Mais aujourd'hui, nous sommes orphelins, nous vivons avec des monstres.
حاليا لابد من العودة والعودة بشوفها هي أول
حق مكتسب إلنا. La nécessité c'est qu'il nous faut retourner sur notre terre. C'est notre droit et c'est grâce aux jeunes que nous allons rentrer. مثلنا
الختيارية ممكن يعني ما عاد عندهم قدرة المشي.
Nous les vieux, même si nous ne pouvons plus marcher. Nous avons une mission. Parler, 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 tout raconter. Les vieux sont les passeurs qui apprennent aux jeunes gens la vraie image de la Palestine. Qui leur parlent de ce devoir de retour qu'ils doivent porter dans leur cœur. La Palestine est présente à mes yeux, dans mon cœur, toute la Palestine. Il n'y a pas un village que je préfère aux autres. Je suis dévoué à la Palestine entière. Je vois ces arbres, ces olives, ces oranges, ces horizons, sa terre. Je vois les tombeaux de mes grands-parents. J'ai une très grande nostalgie. Ses grands-parents, je les retrouve dans les yeux de nos enfants, dans les yeux des martyrs qui meurent tous les jours, ces jeunes qui portent la ceinture et qui se font exploser. Qu'est-ce qui pourrait être, d'après vous, plus précieux que la vie? C'est le pays, c'est la terre, c'est la Palestine. Alors comment faire devant ces jeunes martyrs? Moi, ma dignité, ma fierté, c'est que je suis né en Palestine et que je suis palestinien.
Il
vaincus sont devenus les mendiants de la Croix-Rouge. Les proscrits errants de frontières jusqu'à Beyrouth ravagée, Beyrouth rouge de sang sur laquelle plane comme une prière la voix grave de Férouz chantant Yakout Sou. Ô ville sainte.
Je dois oublier pour retrouver qui j'oublie.
Lancer des voix et des souffles contre ceux qui refuseraient au désespoir le droit de crier, à la douleur, la nécessité de brûler les entrailles. Des voix comme des imprécations, ou une musique amoureuse du corps, qui est un désir de vie.
Qui viendrait ou ne viendrait, et savait ce qu'il advint lorsque le rêve naît du rêve, et qu'il sait qu'il ne faisait que rêver.
Et savait, et rêvait, et rentrait, et rêvait, et savait, et rentrait, et rentrait, et rêvait, et rêvait. Et rentrer.
Bon, je m'appelle Leda Mansour. Je suis palestinienne réfugiée au Liban. Je suis née au Liban. Mon village d'origine en Palestine, ça vient de Safouri, département de Nazareth, au nord de la Palestine, en Galilée. Au début de notre enfance, on a quand même vécu la guerre, une certaine période de la guerre civile libanaise ou la guerre palestino-israélienne. Cette génération à laquelle je fais partie, elle se pose plein de questions. Des questions autour de l'identité, de l'appartenance, à quoi on appartient, à qui. Est-ce que déjà il faut appartenir à quelque chose? Nous, si tu veux, c'est la guerre et la paix. On ne connaît pas la vie avant, ni en Palestine, ni en dehors. On invente la vie. On invente la vie en Palestine. On crée une certaine vie. Donc, ça te mène à poser la question, la grande question, pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi nous? Surtout les réfugiés palestiniens. Surtout les réfugiés au Liban. Parce que, comme tu sais, c'est vraiment une situation quand même très dramatique là-bas. Tu peux pas travailler, tu peux rien faire là-bas. Déjà, il y a l'expression aussi. T'es déjà, en tant que palestinien, tu vois, il y a des jeunes palestiniens qui n'osent pas dire qu'ils sont palestiniens, qui n'osent pas parler leur accent arabe palestinien. Parce que t'es pris pour un vulgaire. Un palestinien du camp, qui vient du camp, on te regarde. Ah oui, t'es palestinien, c'est comme un bédouin presque. Donc, il y a plein de choses que toi, tu vis tous les jours, qui te font te dire, merde, je suis palestinien, c'est pas un beau cadeau. J'en suis fière, c'est vrai, mais c'est pas un beau cadeau. Alors nous, on est le fruit de la guerre, mais le fruit amer, tu vois, c'est complètement les fruits gâtés. Et on subit tout, si tu veux, les conséquences de ce que les Palestiniens ont déjà fait au Liban. Parce que quand même, quand tu écoutes une Libanaise chrétienne qui te dit, une jeune Libanaise chrétienne qui te dit, « Oui, vous, les Palestiniens, vous avez tué mon oncle. » Moi, je dis, « Bien sûr, c'est vrai. » Moi, je lui dis pas non. Et par contre, quand tu écoutes aussi ma grand-mère qui me dit, « Les chiites, ils ont tué mon oncle. » Tu vois, et il y a plein de choses qui se sont passées. Mais moi, ce que je reproche maintenant aux Libanais et aux Palestiniens, c'est qu'on ne pense pas, on ne dit pas que c'est pas fini, on ne doit pas oublier, je suis d'accord. On ne doit pas oublier, mais en même temps, on ne doit pas être bloqué par ce passé. Et vraiment, on essaye avec les jeunes Libanais de créer un nouveau dialogue et entre les Palestiniens eux-mêmes, parce que même avec les Palestiniens eux-mêmes, il y a des tensions.
Abdallah.
Dans les médias au Liban, on couvre très bien l'intifada. On parle beaucoup moins ce qui est de la vie des Palestiniens dans les camps, des lois appliquées entre guillemets contre les Palestiniens, genre loi de travail ou loi de la propriété. On n'a pas le droit, quand on est Palestinien, on n'a pas le droit d'acheter une maison, on n'a pas le droit d'hériter une maison de sa mère qui est libanaise, par exemple, si elle le possède. On n'a plus le droit. À un moment donné, on avait le droit. Et un Français ou un Américain, il peut acheter une maison au Liban, hein, mais pas un Palestinien. C'est incompréhensible. Il y a eu quand même un problème de déscolarisation de certains jeunes à cause de la loi du travail au Liban qui interdit plus de que 70 métiers aux Palestiniens du Liban. On n'a pas le droit de travailler. On a des diplômes, mais on ne fait que les chantiers de bâtiments ou l'agriculture. Alors pourquoi travailler, pourquoi faire des études, pourquoi perdre son temps à l'école? Les jeunes ne veulent plus aller à l'école. En plus, la situation des écoles, les dons de l'ONERWA sont beaucoup détériorés après Oslo. Ils sont dégradés, on peut dire. Je sais qu'il y a eu des lycées qui sont même fermés. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne sortent pas des camps, qui ne veulent plus faire des études et qui ne font rien. Ils ont le droit de sortir des camps, mais ils n'ont pas les moyens de sortir. Surtout parce que il y a une loi qui interdit le travail aux Palestiniens, qui est une loi libanaise. Peut-être les Palestiniens ou les jeunes du camp vont sentir qu'ils ne sont pas très appréciés de la société libanaise, que les Libanais ne veulent plus d'eux, qu'ils ne sont pas les bienvenus, alors qu'ils préfèrent rester dans des camps.
Je dois oublier pour retrouver qui j'oublie. Agnès Levallois.
Les autorités libanaises estiment qu'elles n'ont pas, j'allais dire, à assumer ou à assurer les conditions de vie des Palestiniens, puisque c'est une population qui vient de l'extérieur, qu'eux n'ont pas demandé à ce que ces Palestiniens soient là, et qu'ont bien expliqué que de toute façon, ça n'était pas sa manière de leur ressort que de s'en occuper. Donc ils estiment que c'est la communauté internationale à assumer ses responsabilités face justement à cette population de réfugiés, avec toujours l'idée quand même qu'ils ne doivent pas rester et qu'un jour ils vont partir. Or, on s'est aperçu lorsqu'il y a eu les négociations de paix, les fameux accords d'Oslo, de Washington, la déclaration de principe, enfin, tous les accords qui ont été signés entre 93 et 98, à chaque fois, évidemment, la question des réfugiés a bloqué. Et à chaque fois, l'attitude des Libanais, c'était de dire « Réglons la question des réfugiés. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens d'assumer l'intégration de cette population. » Ce qui est dramatique, parce qu'en même temps, on sait très bien que ces Palestiniens ne pourront pas rentrer dans ce qui est aujourd'hui Israël et même dans ce qui sont aujourd'hui les territoires palestiniens pour des raisons, je vais dire, évidentes, simplement de place. Et cette incapacité des autorités libanaises à proposer un projet à cette population palestinienne est bien évidemment source de tensions énormes.
Et ça a créé chez les Palestiniens un sentiment d'infériorité. Et je suis responsable de ce que je dis, vraiment. Pas chez tout le monde. On se sent inférieur par rapport à ce Libanais qui nous regarde du haut, qui se sent déjà supérieur. Et ce sentiment d'infériorité, ce qui fait que ça freine dans sa tête, dans notre tête, Déjà avec les Libanais, on change d'accent. On parle leur accent, on parle pas notre accent. Tu vois, c'est pas parce que nous, on nie notre accent, mais c'est parce que on a peur. Et nous, les jeunes, je parle. Parce qu'en fait, c'est nous qui subissons les conséquences négatives. C'est pas mon père ni ma mère. Même si eux, ils ont souffert aussi. Et partir, c'est la seule aspiration, c'est le seul rêve. Rêve parce que c'est difficile à réaliser. Ambition parce que, voilà, il n'y a que ça. Tu vois, mon frère, ça fait par exemple 4 ans, mon frère qui s'appelle Salah, qui a 24 ans, ça fait presque 4 ans, 5 ans qu'il essaye de partir. Il y a une association, si tu veux, un établissement palestinien qui fait travailler les réfugiés palestiniens, qui s'appelle Sissi, qui font des champs de construction, des trucs à Pakistan, ou je sais pas, au Ouzbékistan, en Arabie Saoudite. Ça fait 5 ans qu'il essaye. Il n'arrive pas. Parce qu'il n'a pas envie quand même d'émigrer de manière clandestine, il veut faire quelque chose de légitime. Mon cousin, il est parti clandestinement. Mais on l'a chassé, il est revenu. On paye beaucoup, on paye cher. Ma tante, qui est maintenant morte, elle avait beaucoup payé pour mon cousin. Elle avait emprunté de l'argent pour qu'il parte, parce que c'est un commerce, c'est un marché, l'immigration clandestine. Et il était chassé, il est revenu, quoi. Parce que, ouais, la Palestine, cette étoile inaccessible, auquel on rêve tout le temps... Attends, mais on est complètement éduqué autour de cette étoile. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, toutes les lettres des Palestiniens, moi je vois l'autographe de ma mère entre ses copines, et même avec mes copines quand on était plus jeunes, quoi, toujours une lettre même complètement intime, amicale, qui n'a rien à voir avec la Palestine, ça va, comment tu vas, j'espère que tu vas bien, voilà tout ça. À la fin, on termine par... Et nous allons retourner. Jérusalem est à nous. Et nous allons toujours résister. C'est-à-dire, c'est complètement automatique que parfois, tu as l'impression qu'on est presque aveuglé par la Palestine.
Retour désiré. Imaginez retour, comme la musique envoûtante d'une ancienne chanson. Retour inscrit dans la chair et dans le cœur. Retour qui est la seule lumière dans le regard des aveugles de l'exil. Car le rêve ancien du peuple d'Israël est celui-là même du peuple palestinien. Et cette terre est la même naissance. Laissez donc, ô invités du lieu, quelques sièges libres pour les hôtes, qu'ils vous donnent lecture des conditions de la paix avec les défunts.
التأثير النفسي فالتأثير النفسي مشكلة يعني في سلسلة تأثيرات نفسية صارت عنا تقريبا جزء من المناعة بهالموضوع.
Il y a beaucoup d'autres éléments qui nous affectent au quotidien. Les Palestiniens, depuis leur arrivée au Liban, ont dû subir de nombreux chocs psychologiques. Ils sont maintenant habitués, presque vaccinés contre tous ces bouleversements.
الفلسطيني اعتاد على عملية الظلم بهالناحية يعني عمليا.
Ils ont l'habitude de subir les injustices. L'injustice de la société internationale, de l'UNRWA et du gouvernement libanais. Rien ne va changer si Beyrouth se reconstruit. Ce n'est pas la première fois qu'on vit une telle injustice. Rien de nouveau ne se profile. Nous sommes arrivés au bord du désespoir. Pour ce qui concerne la cité sportive qui borde Shatila, le gouvernement libanais compte développer un grand projet touristique. Si jamais ce projet se réalise, que va-t-il se passer? C'est un danger pour le camp. Surtout que Shatila est devenu un symbole pour tous les Palestiniens. C'est le souvenir des massacres de 82. Raser le camp, c'est nier ce qu'il représente.
Septembre 1982.
L'horreur et l'étendue des massacres dépassent encore ce que je vous ai déjà décrit hier soir. Ce matin, je me suis de nouveau rendu sur les lieux. En fait, les tueries ont largement dépassé le seul camp de Sabra. À Shatila, où je suis allé aujourd'hui, c'est un spectacle tout aussi dramatique, mais encore plus horrible. J'ai vu ce matin des enfants de 8 ans à peine, les mains liées derrière le dos. On les avait attachés avant de les exécuter. Quelques mètres plus loin, c'est un vieillard. Le cadavre de cet homme a été piégé avec une grenade découpillée pour que personne ne puisse jamais lui donner une sépulture décente. Le chiffre de 1000 suppliciés semble donc aujourd'hui celui qui correspond le plus à la réalité. D'autre part, les massacres ont commencé beaucoup plus tôt que nous l'avions cru au premier abord. Plusieurs témoignages confirment que la tuerie de Beyrouth Ouest a commencé dès vendredi après-midi, ce qui exclut totalement l'idée que l'armée israélienne installée à proximité n'ait pas été informée de la présence à l'intérieur des camps des tueurs chrétiens, au moins par le bruit des tirs qui ont duré plusieurs heures.
Je m'appelle Abir Kayed, je suis palestinien de Liban, de famille palestinienne qui sont émigrées en 1948 de Haïfa et de Jérusalem, père et mère. Je suis née à Beyrouth et en 1982, je suis allée en Arabie Saoudite pour rejoindre mon père parce que c'était l'époque de bombardement d'Israël au Liban. Et bien sûr, je suis née à Shatila, je n'ai pas vécu toute ma vie, mais... Je suis revenue il y a un an et demi, quand je visitais les bancs juste pour une, comme touriste en fait. Et puis j'ai vu le camp qui ressemble plus le camp de Shatila. Et puis c'était de petits souvenirs qui pour moi c'est un peu dans le nuage en fait. C'était pas très très clair, mais bien sûr je me rappelle très bien de 82 qui je le vis tous les jours. Parce qu'on a perdu six membres de ma famille. Je me rappelle, après 3 jours de massacre de Shatila, on a descendu avec les cousins pour regarder les cœurs de gens qui étaient par terre. Et c'est bien sûr de souvenirs inoubliables pour moi. Tous les jours, on fait avec parce qu'il faut évoluer. Il faut vraiment rêver d'autres choses. La Palestine, la paix, il faut vraiment... Même avec du souvenir qu'on a, il faut vraiment rêver pour arriver à la paix, à la vraie paix. Pour nous, pour les peuples d'Israël, pour le peuple de Palestine, d'Arabes de 48, l'Arabe d'Israël, qui sont restés là-bas, qui sont toujours victimes comme nous.
Moi, en tant que Libanais, le massacre de Sabra et Shatila, c'était quelque chose qui m'a fait très 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 mal.
Hicham Jourdi.
Je ne pouvais pas vraiment imaginer qu'une partie des Libanais qui peuvent vraiment coopérer avec l'armée israélienne en pleine invasion d'Israéliens au Liban pour faire quelque chose de terrifiant, de choses atroces contre les populations civiles palestiniennes. C'est un point noir dans l'histoire du Liban, ce massacre. Parce que je sais très bien qu'il y a des Libanais qui sont participés à ce massacre. Et ça me... Ben, j'ai la boule, quoi. J'ai la boule d'aller au Liban et de voir ces camps encore. Vraiment, ça me gêne. J'ai honte. Et moi, je suis né juste en face de Shatila. Donc, je suis né dans une petite ville que je peux voir les camps. Vraiment à l'œil nu, donc juste en face. Depuis, moi je suis né 53, et depuis 53, quand je rentre chez moi, je vois le connaît autant que Libanais. On est très proche, donc on a aussi payé le prix très cher. On a partagé de souffrances, de douleurs, énormément de responsabilités aussi par rapport au peuple palestinien. Donc quand tu vois les camps de l'extérieur et les maisons, c'est horrible, quoi. Donc c'est insupportable. On ne peut pas imaginer qu'il y a des gens de ça. Et tu rentres à l'intérieur, c'est quelque chose d'inélégant, quelque chose de digne, très digne des gens.
Dans la ville, Sabrech et Attila, aux abords, Bour el Brajne, sont des villes fantômes, des villes invisibles, dans la grande ville, dans lesquelles l'on pénètre sans s'en apercevoir. Il n'y a pas de frontière à franchir, pas de seuil véritable. Ces villes, 18 000 habitants à Attila notamment, sont des lieux ouverts, sans limites assignables. Les limites n'y sont qu'implicites, les limites fixées par une condition. Entrer dans la ville, nécessite cependant un vrai travail d'approche. Ça génère de la fatigue. L'approche est longue, fastidieuse, captant l'énergie de qui rentre. L'attention aussi est mobilisée par d'infimes détails. Il faut faire attention à ne pas trébucher, à éviter les nappes de boue, d'eau, les cailloux. Ce temps d'approche signale le temps comme une matière dense, la principale donnée constitutive de dialogue échangé. Depuis quand? Combien de temps tenir encore? Et où se mettre? Le nombre des enfants du camp, la durée des coupures d'électricité, comptabilité suspendue à une sorte de vide, sur fond de vide. Le dénuement et les signes, partout, peintures, photos, traces et signes iconographiques viennent prendre place sur les pans des murs, les parois, les interstices, à l'extérieur de ce qui n'est pas un espace public, à l'intérieur des espaces habités que l'on ne peut pas nommer des maisons. Carte de la Palestine, portrait public et privé, insignes et messages du Hezbollah, motifs décoratifs traditionnels. Fragiles dessins ou images qui semblent tenir tête au temps en ruine. De nombreux vieillards abordent des bonnets Nike, des baskets Nike également. L'institutrice de l'unique école maternelle du camp de Attila travaille dans un tout petit réduit, dans lequel trône une horloge à l'effigie de Mickey. Il y a désormais, tout contre Attila, un immense stade en pierre de taille. Il étend son ombre perpétuelle et définitive sur une partie du camp. La spéculation immobilière est en marche à Beyrouth.
Ce camp, on l'a souvent comparé à une poche de misère. Il est vrai que lorsqu'on longe les ruelles, on découvre cet aspect des choses, les problèmes d'électricité, de l'eau, le manque de confort. Disons que même un chat aurait du mal à vivre ici. Avons-nous une alternative? Non, nous n'avons pas d'alternative. Nous sommes obligés de vivre ainsi. Le camp s'étend sur 1 km² où s'entassent des milliers de personnes. Dans d'autres pays, une surface équivalente serait occupée par une ou deux familles. Si seulement il y avait un jardin et de la place pour que les enfants courent et sautent, fassent du sport, du vélo, du foot, des espaces pour les familles. Alors qu'ici, vous entrez dans une pièce et vous constatez que 6 ou 7 personnes y vivent. C'est la pression démographique et nous n'avons pas le choix. Tout ça parce que nous n'avons pas de patrie. Et comme si tout ça ne suffisait pas, les guerres et leur lot d'horreur frappent nos jeunes et notre peuple. Qui nous fiche la paix, qui quitte nos terres. S'ils étaient d'honnêtes hommes, ils n'occuperaient pas nos terres. Parmi les tiens au sein de ta patrie, même sous une tente, on ne veut pas venir t'arracher tes racines. Même sous un arbre, sous un olivier, tu sens sa bienveillance, tu sens qu'il te protège et tu sais qu'il t'appartient. Ne serait-ce qu'un maître de terre, tu sais qu'il t'appartient. Contrairement à tous ces colloques où l'on parle du retour des réfugiés, où on entend qu'on ne veut pas de réfugiés par-ci, pas de palestiniens par-là, on parle que de la misère des camps. Un tel discours nuit au moral du peuple palestinien. Nous ne sommes pas un peuple soumis. Nous sommes un peuple noble. Et la Palestine est un pays enraciné dans l'histoire de la civilisation.